Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Le meilleur de Séance Radio est maintenant sur We Love Cinéma.
Costa Gavras nous a fait l'honneur d'être l'invité de Flashback. Nous l'avons rencontré lors du festival Premier Plan d'Angers à l'occasion de la sortie d'un coffret édité chez Arte réunissant ses 9 premiers longs métrages en version restaurée réalisés entre 1965 et 1983, dont les plus célèbres Z, L'aveu, État de siège ou encore Missing, qui ont fait de lui le maître des thrillers politiques. Costa Gavras a quitté sa Grèce natale à 19 ans pour la France, où il entra à la fameuse école de cinéma Lidec, avant d'être l'assistant réalisateur de René Clément, Henri Verneuil et Jacques Demy. Par la suite, il entama une carrière de cinéaste jalonnée de succès et de récompenses. Un prix du jury pour Z, un Oscar pour Missing et une Palme d'Or pour le même film. Une carrière donc jalonnée de récompenses et de succès. Mais justement, je lui ai demandé pour quelle raison il n'aimait pas le mot de carrière.
Je n'aime pas ce mot de carrière et j'essaye de le dire d'ailleurs dans une longue interview que j'ai faite dans ce coffret, parce que carrière, ça veut dire une organisation de sa vie. On est militaire, on passe à l'école, on est lieutenant, etc., jusqu'au général, jusqu'au lieu. On est fonctionnaire, pareil. On est politique et puis on est même entrepreneur. Et on a un programme. Au cinéma, on n'a pas un programme. On fait un film, parce qu'on le fait avec, en tout cas, je l'ai fait avec ce que je pense, avec mon cœur, avec toute mon énergie, et aussi avec ce que je crois. Et puis, ça peut marcher, ça peut pas marcher. Et si vous en faites un ou deux ou trois qui ne marchent pas, et bien après, vous êtes disparu. Bon, j'ai eu la chance de faire des films qui ont marché. Donc, je continue. Mais le faire dans une carrière, on organiserait les films qui marchent ou qui ne marchent pas. Et bien, c'est impossible, le cinéma. Et heureusement, d'ailleurs. Je veux citer, comme je le fais souvent, Cocteau qui disait « Il y a des règles pour faire des succès, mais nous ne les connaissons pas. » Alors, comment on ne les connaît pas, on peut faire une carrière.
Alors, vous réalisez en 1965 votre premier film, « Compartiment tueur » d'après un livre de Sébastien Japrisot, avec déjà une pléiade d'acteurs impressionnant quand on cite les noms Montand, Piccoli, Signoret, Mondy, Trintignant et quelques autres. Et ce qui frappe en voyant le film, c'est sa grande vivacité. Et je trouve qu'il y a aussi avec un certain maniérisme dans la mise en scène, avec des, par exemple, des angles de caméra qui sont assez surprenants. Et je trouve que, alors vous allez me dire si je me trompe, mais vous avez commencé un petit peu à l'instar d'un Claude Sautet dans la série noire, dans un film noir. C'était quoi? C'était une manière pour vous de faire vos classes? Ce choix-là qui ne sera plus trop après le cas dans votre le
reste. Compartiment tueur, c'est fait par hasard, complètement. J'étais assistant de Clément, il m'avait dit, je fais un autre film, attendez-moi. J'avais de l'espace, 2 ou 3 mois, et je suis tombé par hasard sur ce livre, et je me suis dit, je vais faire un exercice de scénario pour apprendre le scénario. Voilà. Et je fais le scénario. Une secrétaire au studio de Boulogne l'a tapé, parce que j'écris à la main, l'a donné au directeur de studio, qui m'a appelé, dit, c'est formidable histoire, faisons le film. Je dis, mais je n'ai pas les droits, je n'ai rien du tout. Et c'est parti comme ça, et le film, ça a été fait comme ça. Alors, les acteurs de Compartiment, et puis par la suite, j'aime les acteurs. Je pense que c'est les premiers collaborateurs du metteur en scène. Pourquoi? Parce que c'est eux qui portent l'histoire au public. S'ils sont bons, on y croit, s'ils ne sont pas bons, on n'y croit pas, on croit qu'à moitié. Voilà. Donc, je connais les acteurs. En tant qu'assistant, je faisais le casting des films que j'assistais. Donc, et je connaissais les acteurs très bien. Quand ils ont su que je faisais un film, ils ont accepté de faire un rôle petit ou grand.
Il y a ensuite Un homme de trop que vous tournez.
Un homme de trop, voilà.
Qui marche moins bien.
Qui ne marche pas du tout, même.
Et ensuite, vous avez beaucoup de difficultés à trouver les financements pour tous les aides. Grâce à Jacques Perrin, grâce à ses relations en Algérie, vous arrivez à tourner le film. Et ce film-là fait de vous le réalisateur emblématique des thrillers politiques. Mais alors, qu'est-ce qu'il est le plus important à vos yeux, le thriller ou la politique? Parce que vous dites souvent que le cinéma est avant tout un spectacle. Mais je trouve que dans vos films, c'est souvent un spectacle sur la société, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que vous traitez vraiment de problèmes actuels, contemporains ou actuels, mais de manière, en effet, très cinématographique, finalement.
Mais les auteurs de la tragédie grecque il y a 2500 ans, il ne faisait pas autre chose qu'il racontait la société. Molière n'a pas fait autre chose qu'il racontait la société. Et puis j'en citerai d'autres, Shakespeare a fait tous. Donc, et le grand cinéma que j'ai appris à l'école, que j'ai aimé, c'est d'y raconter la société. Donc ce qui m'intéressait aussi, c'est d'y raconter la société. Et dans ce cas-là, c'était la société grecque d'une certaine manière, mais ça s'est prolongé dans cette histoire de Z, ça s'est prolongé dans les autres sociétés. Il s'agissait de la justice. La justice et l'intervention à la justice du pouvoir politique ou des pouvoirs militaires ou des pouvoirs policiers. Voilà. Donc il n'y a plus de justice quand il y a ça. Donc c'est cette idée-là qui existe dans le monde entier. Donc elle était particulière en Grèce dans cette histoire, mais ça s'est prolongé un peu partout. C'est ça qui m'intéressait. Et là encore, on est dans le pouvoir. Dans le pouvoir et les victimes du pouvoir et les hommes. Parce que finalement, on fait des films sur les hommes et les femmes. Hein. On ne fait pas des films sur je ne sais plus quel. On disait à un moment donné que faire des films pour l'esthétique. Qui c'est l'esthétique? Je ne connais pas l'esthétique. Je n'ai jamais rencontré l'esthétique. Je vois film pour l'esthétique, ça n'existait pas. Si on fait des hommes, on fait des films pour les hommes, les femmes, leur et l'histoire.
Nous vivons dans un pays où même l'imagination est suspecte. Et pourtant, il faut de l'imagination pour résoudre les problèmes de cette planète où la puissance explosive des bombes atomiques stockées correspond à une tonne de dynamite par habitant.
Ah merde, alors tu penses qu'à ça?
Nous empêcher de parler. On veut nous empêcher de tirer les conclusions politiques qui s'imposent à partir de toutes ces vérités très simples. Mais nous parlons. Nous sommes au service du peuple et le peuple a besoin de vérité.
Mais alors, Z remporte un grand succès à l'époque, plusieurs prix à Cannes et aux Oscars. Et à ce moment-là, vous avez beaucoup de propositions aux États-Unis déjà, dont un certain parrain, on peut le dire maintenant.
Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai.
Qu'on vous propose, que vous refusez. Je crois que vous jugez le livre de Puzo pas très bon.
C'est un très mauvais livre, c'est un mauvais livre. J'ai parlé avec Coppola, je lui ai dit c'est grâce à Coppola que le film est un grand film, parce qu'il l'a fait avec son talent, parce qu'il est italien, il connaissait l'Amérique. Moi, qu'est-ce que j'allais faire dans cette histoire de mafia et de drogue, etc., des histoires de sexe aussi, dans le livre épouvantable.
Et alors, vous attendez un certain nombre d'années, et puis en début des années 80, en 82, vous acceptez Missing, hein, qui est un projet qui vous est cher. Qu'est-ce qui finalement, avec ce film-là, vous a poussé aller à travailler enfin pour les studios hollywoodiens?
Essentiellement deux choses. D'abord, le Chili, que je connaissais parce que j'avais rencontré Allende, j'avais rencontré ces gens, je pensais des gens formidables qui voulaient instaurer un nouveau type de démocratie en Amérique latine par rapport aux autres pouvoirs qui étaient sous la férule américaine complètement. Et ça m'intéressait beaucoup. Et puis il y avait une autre chose aussi qui était. Et puis Pinochet, un coup d'État qui ressemblait un peu au coup d'État grec, mais pas aussi. Le coup d'État grec n'était pas aussi violent. Et puis surtout, l'histoire du père qui n'est pas son fils et qui découvre que son fils, il est mieux que je ne l'ai pensé. Et son pays, qu'il adore, trouve qu'il fait des choses inacceptables ailleurs. Voilà. Et une autre chose, le film ne s'est passé pas en Amérique. Moi, je ne connaissais pas l'Amérique pour aller un film, faire un sujet américain dans l'Amérique. C'est passé en dehors de l'Amérique, c'est passé au Mexique. Donc, je me sentais beaucoup plus à l'aise. Bon, plus tard, j'ai connu en Amérique et j'ai pu faire des films en Amérique.
Mais vous avez donc eu affaire aussi à la lourdeur, j'imagine, de la production américaine. Vous citez souvent Lou Wasserman, qui était à l'époque à la Universal, qui vous a beaucoup soutenu, je crois.
Complètement, il m'a donné toute la liberté. Parce que je dis par exemple que je voulais avoir les derniers mots sur le scénario, ce qui n'est pas habituel à Hollywood. Le casting aussi. Et puis faire la post-production, faire d'abord le film avec mes équipes françaises et faire la post-production à Paris. Je ne voulais pas immigrer à Los Angeles. Et Wasserman et Ned Tanen, qui était aussi à côté de lui, ils ont accepté toutes ces conditions-là. D'ailleurs, tous les films que j'ai fait en Amérique, je les fais sous ces conditions-là, sinon je ne les ferais pas. C'était très net. Je les fais comme ça ou je ne les fais pas. Et ça a été accepté et c'est comme ça que je fais celui-là. Et puis les 3-4 autres aussi.
Et pourtant, quand vous parlez d'Hollywood, on sent souvent quand même une certaine, non pas dureté dans votre jugement, mais alors pourtant vos films ont été réussis là-bas, vous avez eu le contrôle sur ces films, comme vous venez de le dire, vous avez pu les tourner comme vous le vouliez avec l'équipe que vous souhaitiez, mais pourtant le regard que vous portez à Hollywood semble quand même assez détaché souvent, ou en tout cas assez parfois même un peu sévère.
Non, parce que je sais que beaucoup d'Européens qui ont fait l'expérience de Hollywood, ils ont eu des bons succès jusqu'à un certain moment, après quand ça ne marchait pas, ils ont été écartés complètement, ou alors beaucoup dès le début. Et il y a des exemples formidables, je ne vais pas les citer parce que j'en connais au moins 3. Ils ont souffert beaucoup pour faire les films et ils ont fait soit des pas bons films ou soit pas des films du tout. Donc Hollywood, c'était un endroit formidable. Ils ont fait des films extraordinaires et qu'ils ont appris le cinéma cinéma de la façon comme ils le font, qui nous a beaucoup d'ailleurs influencé sans doute. Mais il y a aussi derrière ça une sorte de machine qui ne pense qu'au succès, qui ne pense qu'à contrôler la mise en scène, contrôlée par des gens qui sont des financiers et qui n'ont pas une grande connaissance du cinéma. D'ailleurs, la guilde des metteurs en scène, quand on parle avec eux, je suis membre de la guilde, eh bien, ils disent, on aimerait bien être comme chez vous, en France, avoir le montage, la liberté du montage. Le metteur en scène n'a pas la liberté du montage. Il fait un montage, et puis les producteurs peuvent venir derrière et changer tout complètement. Et puis, la même chose pour les acteurs, etc. Moi, pour Missing, par exemple, il ne voulait pas Jack Lemmon. Moi, j'insistais beaucoup, il me proposait d'autres vedettes très, très, très importantes. Non, je voyais Jack Lemmon. Et il y a une bataille, finalement, ils ont accepté. Sinon, j'ai risqué presque de ne pas faire le film.
We're not involved, Mr. Harmon. Has been completely neutral.
That is a bald-faced lie. How can you say a thing like that when you have army colonels, you have naval engineers, they're all over Viña del Mar?
Please, sit down. Look, it's very obvious that you're harboring some misconception regarding our role here.
What is your role here? Besides endorsing a regime that murders thousands of human beings?
Alors, ce qu'il y a d'assez drôle, il y a une anecdote assez savoureuse, je trouve, par rapport à Missing. C'est donc le film est censé se dérouler au Chili. Vous ne l'avez pas tourné là-bas. On était en pleine dictature de Pinochet. Le film a été interdit pendant très longtemps, jusqu'à la fin de la dictature, je crois. Et est-ce que vous pouvez nous raconter cette anecdote de cassette vidéo du film envoyée en sous-main au Chili sous des jaquettes Walt Disney? Enfin, je crois que voilà. Est-ce que
oui,
pouvez...
oui, on a envoyé parce que beaucoup de Chiliens disaient oh, il faut voir ce film, et puis on s'est arrangé de prendre des pochettes Disney ou d'autres pochettes, des films complètement Laurel et Hardy par exemple, on mettait il y avait des VHS à l'époque, et puis j'ai su plus tard qu'ils les voyaient chez eux, ils faisaient des soirées comme ça presque en clandestinité, il y avait un dîner et après ils regardaient le film, et c'était très émouvant quand je suis allé présenter le film après là-bas. C'était formidable les histoires qu'ils me racontaient dans ce sens-là, parce que beaucoup de gens, pas seulement de France, d'Amérique aussi, ou même d'autres pays, on voyait le Missing parce que c'était le seul film qui, enfin, d'après eux, qui parlait de Pinochet, de cette histoire, d'une manière très claire.
Et 10 ans auparavant, vous tourniez sous le gouvernement Allende, état de siège avec Montand. Siège, donc il y a comme ça, alors c'est les hasards de l'histoire qui fait qu'il y a cette connexion.
Malheureusement, parce qu'en plus, l'état de siège, je ne pouvais pas le faire dans aucun autre pays en Amérique latine. C'est le seul pays où on pouvait le faire, c'était le Chili pendant l'époque de Allende. C'est là d'ailleurs où j'ai connu Allende, et c'est aussi une des raisons qui m'a poussé de faire Missing aussi. C'était un peu en son hommage, c'était un homme que j'admirais beaucoup.
Alors, État de siège fait évidemment partie de votre série de films avec Yves Montand, qui a vraiment marqué, je trouve, vos films de son empreinte, en particulier évidemment pour L'Aveu, pour lequel il a perdu beaucoup de kilos et dans lequel il a eu un investissement rare quand même pour un comédien à ce niveau-là. Mais j'ai l'impression que vous êtes le premier cinéaste à l'avoir filmé ainsi à cette époque-là. Montand n'avait pas cette image-là à l'écran, et même d'autres cinéastes après vous, ou même en même temps que vous, comme Sautet par exemple, l'ont filmé de manière, on va dire, beaucoup plus légère. Et vous l'avez vraiment filmé avec une gravité, une sobriété. On a l'impression que, oui, que Montand sans vous et vous sans Montand, ça n'aurait pas été la même histoire. Enfin, il y a quelque chose vraiment d'indissociable.
C'est assez juste. C'est-à-dire qu'avec Montand, on a fait une amitié professionnelle et de vie et familiale très forte après Compartiment Tueur. Pendant Compartiment Tueur, Montand voulait absolument être dans le film, voulait faire un rôle, et puis ça ne lui plaisait pas beaucoup de faire un policier. À l'époque, les policiers, après la guerre d'Alger, ils n'avaient pas une bonne image, etc. Et puis, mais je lui ai proposé un masque, de faire le film avec l'accent marseillais qu'il avait, qu'il essayait de cacher. Et il a hésité au début, et finalement il a accepté. Et il s'est senti libéré complètement. D'ailleurs, au premier jour de tournage, après la première scène avec Simone, qu'il visite chez elle, et il a sorti et m'a dit, on va continuer avec l'accent. Et c'est vrai qu'il s'est senti libéré. Il s'est senti, comme il a dit après dans différentes biographies, que pour la première fois, l'acteur, le rôle de l'acteur, doit venir l'incarnation des personnages de l'intérieur et non pas de l'extérieur. Or, lui, il avait des images de Humphrey Bogart, je ne sais plus quel autre acteur, Gary Cooper, comme ça, sa façon de tenir la cigarette, etc. Il était dans le domaine de l'imitation, presque. Et là, il a compris que non, ça passe de l'intérieur. Et je crois que c'est ça qui a fait que on s'est beaucoup rapprochés, et il me faisait une confiance absolue. Et pour Z, et surtout pour L'Aveu, qui était quand même un rôle très difficile, État de siège aussi, qu'il a accepté de jouer un personnage tout à fait contre le méchant, comme on dit, mais parce que j'ai dit, voilà, ça ferait une sorte de triptyque qu'on ferait, une trilogie. Il m'a dit, bon, je le fais quand même. Et c'est lui qui a inventé complètement les personnages d'Américains avec une coupe de cheveux particulière, etc. Voilà. Donc, une confiance mutuelle complète. Et je pense que c'est la meilleure façon de travailler, de mettre en scène avec son acteur.
Pour ces contacts, Noël Pim m'a remis la somme. Il vous a remis combien ?
Non, pas pour ces contacts. Mmh. C'est pendant ces contacts. Mmh. C'était pour payer les frais de sanatorium. Le parti est au courant, il m'a autorisé.
Qui faut-il le contraire ? Ainsi, il vous a remis de l'argent.
Oui.
Combien ?
Je ne sais plus, il y a 5 ans.
Marché.
Mais c'était pas pour ses contacts qu'il m'a remis de l'argent. C'était pour soigner mes poumons malades après les camps nazis. Et le parti savait très bien que les services de field étaient les anciens déportés.
Alors, dans l'aveu, vous filmez une prison. Dans Z, le bureau d'un juge d'instruction. Dans section spéciale, la plupart du temps, un tribunal. Vous ne choisissez pas... Alors, comme vos sujets, qui ne sont pas toujours faciles d'approche et, j'imagine, à réaliser, à monter, même financièrement, vous choisissez souvent des décors qui ne sont pas très cinématographiques. Hein, et pourtant, vous arrivez, dans la plupart de vos films, à les rendre cinématographiques. C'est-à-dire que, comme ça, sur le papier, un bureau d'un juge d'instruction avec des auditions, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus excitant à l'écran. Et pourtant, c'est tout le temps haletant. Comment est-ce que ça se prépare, ça, en amont ?
Ce n'est pas les décors. C'est l'histoire qu'on raconte dans le décor. C'est le rythme de l'histoire, plus, et la qualité de l'acteur. On ne les voit plus, les décors. Quand l'acteur est bon, est très bon même, comme Trintignant dans Z, on ne voit plus son bureau, parce que c'est le même bureau qu'on voit pendant toute cette période du film. On s'en fiche complètement. Ce qui compte, c'est la qualité de l'acteur et ce qui est en face de lui. Quand on a Dux, Bozufi et quelques autres en face à lui, et l'acteur, tout d'un coup, ça devient une sorte de symbiose extraordinaire et le spectateur est avec eux et le décor n'a rien à fiche.
Mais ça, ce sont des choix qui se font directement au scénario. Enfin, ce sont des...
Absolument, c'est le scénario. Beaucoup de gens me disent « Ah, le montage de ceci, le montage de cela ». Le montage, c'est fait au scénario. Si vous n'avez pas un bon montage, une bonne construction montée, vu le montage définitif au scénario, vous ne l'aurez pas à la fin. Alors, qu'est-ce que c'est ? Le montage, vous le faites au scénario. Ensuite, vous le continuez pendant que vous tournez le film. Chaque plan, vous savez comment, plus ou moins, vous allez le monter. Et puis, tout ce matériel qui est énorme, vous avez une idée depuis le début. Et quand vous êtes à la machine du montage, eh bien, vous essayez de retrouver votre idée du scénario. Mais sinon, ça ne marche pas.
Vous avez fait plusieurs thrillers politiques, on l'a dit, mais est-ce que ça n'est pas un genre qui est assez risqué dans son traitement ? C'est-à-dire que, est-ce qu'on a parfois une cause à défendre dans un film politique ? Est-ce que le manichéisme, ce qui n'est pas le cas de vos films du tout, mais est-ce que le manichéisme n'est pas justement un danger et un souci dans l'écriture, dans le tournage, dans la post-production ? En gros, si vous voulez, de prêcher des convertis, c'est-à-dire vraiment d'être là avant tout pour raconter une histoire et ensuite, évidemment, délivrer un message.
Les mots, vous savez, cause... à défendre, les mots condamner telle ou telle chose, ou quelques autres mots qu'on utilise, ne me conviennent pas complètement. On fait du spectacle. On fait du spectacle, et dans le spectacle, j'insiste toujours, c'est qu'on va au cinéma pour avoir des bons sentiments, c'est-à-dire rire, pleurer, être en colère, détester même parfois. Et bien avec tous ces sentiments, que ce soit d'ailleurs le théâtre, que ce soit les concerts de musique. On a des sentiments. Avec ces sentiments, on poursuit notre vie après. Et je pense que le cinéma est fait pour cela. Ça n'est pas pour aller recevoir des messages d'un tel ou d'une telle, n'est-ce pas ? Parce que ça n'est pas non plus pour avoir des discours politiques ou académiques ou tout ce que vous voulez. Non, c'est pour avoir des sentiments. Alors avec sentiments, vous êtes libre après de faire ou de ne rien faire, ce que vous voulez. C'est comme ça que je vois le cinéma. Alors, quand on me dit « vous condamnez de tel... » Non. Je montre ce qui s'est passé dans l'aveu, avec cette époque-là. Il y a une histoire d'un homme qui racontait son histoire dans la prison du Parti communiste tchécoslovaque. Je le montre. D'ailleurs, je ne dis pas que c'est la Tchécoslovaquie. C'est quoi ? C'est un homme face à un système, face à un pouvoir. Voilà. Et comment il réagit cet homme et comment, voilà. C'est ça qui m'intéresse.
Vous êtes aussi président de la Cinémathèque française depuis plusieurs années. Quel rôle a joué la cinéphilie dans votre vie et quel rôle joue-t-elle encore aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes toujours avide de voir des films nouveaux ou anciens ? Est-ce que ça vous nourrit toujours autant ?
Ah oui, on a passé dernièrement, on passe encore, je crois, jusqu'à cette semaine, les Capras à la Cinémathèque, j'étais voir quelques-uns. que j'avais déjà vu. J'ai pris un plaisir immense de voir Capra. Absolument, je pense que la Cinémathèque joue un rôle formidable dans, d'une manière générale. Alors, en ce qui concerne la cinéphilie dont on me parlait, ah oui, je vois les films, j'aime voir les films, et j'aime voir les films, les films qui se font aujourd'hui, parce que chaque metteur en scène, chaque jeune metteur en scène imprime sa façon de penser et montre aussi la société comme il la voit, lui, et que je ne la vois plus comme ça, moi. Parce qu'avec l'âge, avec le milieu qu'on fréquente après un certain âge, etc., ça n'est plus la même vision. Ça, ça m'intéresse énormément.
L'intégrale Costa Gavras volume 1, soit les 9 premiers films du cinéaste réalisés entre 1965 et 1983, est disponible en DVD et Blu-ray chez Arte Edition. On remercie particulièrement le festival Premier Plan d'Angers pour cette interview.
Retrouvez l'ensemble des contenus séances radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.